Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Clémence Alezard, mais aussi Tiffaine de Rocchini, Samuel Bernard, Caroline Bonin, réalisée par Liz Combe et mise en onde ce matin par Jean Guilherme. Pour cette dernière émission de notre série thématique consacrée au corps sonore, nous intéressons au son des villes. Nous allons vous donner à entendre les identités sonores de quelques villes et tenter de voir ce qu'il est possible d'en dire s'agissant de la manière dont s'organisent les communautés et les évolutions auxquelles elles sont soumises. Écologie acoustique, écoutez la ville et la vie. Sans forcément les reconnaître toutes, il apparaît assez clairement que les villes qu'on vient d'entendre possèdent leur propre identité sonore et qu'aucune ville ne sonne comme une autre. On entendait Tokyo, Le Caire, New York, Kerala et Londres. On va s'intéresser ce matin aux sons des villes, les sons de quartiers parfois saturés, souvent bigarrés, bouillonnants. Ces sons sont évidemment éminemment pluriels et surtout structurés dans l'espace et produits socialement. Or, depuis quelques années, cette structuration et ces productions sociales intéressent de plus en plus les anthropologues sonores, les bruits devenant grâce à eux des phénomènes sociaux, culturels. Alors que nous racontent les sons des villes, les flux qui les traversent, de ses interactions sociales, de sa fabrique et de ses mutations urbaines? Pourquoi les sciences sociales ont-elles longtemps été sourdes, comme aveuglées par une suprématie de la vue, le sens le plus noble selon Descartes, sur une suprématie de la vue donc sur l'ouïe? Et qu'apportent nos oreilles justement à la compréhension du monde? Comment est-ce qu'on écoute la ville et comment est-ce qu'on analyse ces sons, quels récits tissés de ces sons de la société? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons avec nous deux invités en plateau. D'abord Christine Guibaud, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, ethnomusicologue et chercheuse au CNRS, au laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative. Et par ailleurs, vous coordonnez le programme 1000 sons, anthropologie des milieux sonores, c'est bien ça?
C'est bien ça.
À vos côtés, Vincent Battesti, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes anthropologue également, chercheur CNRS au Musée de l'Homme, au laboratoire d'éco-anthropologie et d'ethnobiologie. Vous êtes l'un et l'autre des chercheurs en anthropologie et particulièrement en anthropologie sonore. On va essayer de commencer par faire un tout petit peu de définition. C'est quoi l'anthropologie sonore? Comment la situer entre anthropologie, ethnomusicologie? Comment définir ce champ qui en est quand même encore à ses débuts? Christine Guibaud?
Oui, alors en effet, c'est un champ qui est assez composite. Nous-mêmes, présents sur le plateau, avons des backgrounds, comme on dit, un petit peu différents. Moi, je viens plutôt du domaine de l'ethnomusicologie. Et l'anthropologie du sonore, elle s'est définie, dans ce domaine-là en tout cas, à partir des années 1980, sous l'impulsion des travaux de Stephen Feld, qui est un anthropologue américain qui avait fait un best-seller de l'ethnomusicologie qui s'appelle Sound and Sentiment, donc dans la société Kaluli, Papouasie-Nouvelle-Guinée, et qui a invité en fait ses lecteurs à écouter l'environnement sonore de cette population et d'élargir le champ de recherche des ethnomusicologues de la musique vers le son. Et puis il y a ensuite... quelques années plus tard, John Blacking, qui propose aussi une nouvelle définition de l'ethnomusicologie, d'étudier le son comme un son humainement organisé. Donc ça ouvrait, si vous voulez, tout un champ de possibles différents. C'est-à-dire on est passé petit à petit d'une analyse du contenu des musiques, voilà, d'analyser des rythmes, des mélodies, des timbres, à la musique en situation.
Je suis étonné, vous n'avez pas du tout évoqué la figure de Murray Schafer. Il y a eu un rôle pionnier qui a introduit ce néologisme, qui est le paysage, le soundscape, le paysage sonore, c'est comme ça qu'on l'a traduit. Il avait écrit un très célèbre ouvrage en 1977. À l'origine, c'était publié sous ce titre, The Tuning of the World. Il avait été publié en français deux ans plus tard, sous ce titre, Le paysage sonore. Quelle place il tient dans vos travaux à vous?
Alors évidemment, c'est un ouvrage que je connais très bien. Il est alors Murray Schafer, lui, il vient du field recording, donc il a enregistré, et puis il avait aussi comme projet de préserver l'environnement sonore, et puis une démarche de éducative, apprendre.
C'est un écologiste aussi.
Voilà. Ouais. Ce qui est un peu différent, c'est peut-être là où ce qui nous sépare en tant qu'anthropologue des travaux de Murray Schafer, c'est que moi, pour ma part, je travaille une société donc en Inde où l'environnement sonore est extrêmement dense. On est dans ce que Murray Schafer a appelé des paysages de lofi, c'est-à-dire où on peut pas discriminer énormément de différences entre les sons. Donc a priori, c'était pas des objets dignes d'étude. Si on pose d'une certaine manière l'écologie avec des bons et des mauvais environnements sonores, ça ferme un petit peu l'analyse possible.
Oui, parce que Murray Schafer avait décomposé d'une certaine manière les paysages sonores entre ce qu'il appelait le lofi et le hi-fi.
Voilà.
Et vous, finalement, c'est le lofi qui vous intéresse, non?
Bon, pas toujours, parce qu'on est aussi dans des situations assez avec différentes perspectives. Mais en tout cas, il n'y a pas une envie de conserver, il n'y a pas une envie patrimoniale dans ce travail.
Vincent Battesti, alors vous venez de l'anthropologie sociale et vous êtes venu au son, je crois, relativement tardivement. On va évoquer tout à l'heure avec vous le cas du Caire, parce que c'est un terrain qui vous a intéressé. Comment est-ce que vous avez glissé vers la matière sonore et qu'est-ce qu'elle vous apporte de neuf, de nouveau par rapport à votre démarche?
Oui, en fait, anthropologie sonore, je crois pas que c'est, enfin c'est pas une, l'anthropologie sonore c'est pas vraiment une discipline, en fait c'est un champ dans lequel encore assez, relativement nouveau en fait, on y est venu, bah moi Christine elle est venue de par l'ethnomusicologie, moi j'y suis arrivé par une autre partie de mes recherches, enfin pas mes recherches tendaient plutôt vers l'anthropologie de l'environnement, l'ethnoécologie, et je m'intéresse donc aux relations entre les sociétés et leur environnement. Je suis plutôt spécialiste en fait des oasis, comprendre comment les gens transforment leur environnement pour créer cette chose artificielle qui existe dans le désert, qui sont ces oasis. Et je me suis intéressé après à l'anthropologie urbaine et aux espaces publics, et j'ai essayé de voir un peu comment les gens, les habitants du Caire en particulier, était habitait cet espace et le transformait, et à partir de là j'ai essayé en fait de joindre en fait de l'utile à l'agréable. Depuis longtemps, en fait, en voyageant, j'enregistrais des cartes postales sonores pour moi-même, comme on prend des photos, je prenais aussi des enregistrements comme ça pour moi, et j'aimais bien ce côté, ce rendu sonore qui permettait qui était toujours plein d'émotions en fait, à la réécoute, c'était parfois, je le trouvais même plus chargé que les photos, et je me suis posé la question en fait de savoir comment les habitants du Caire étaient appréciaient cette dimension sonore de leur ville qui est très dense, et d'autant que c'était des choses qui revenaient en fait dans le discours des habitants, cette dimension sonore.
Et moi, surtout, il y a la question émotionnelle, mais il y a aussi la question de savoir comment est-ce qu'on analyse justement ces fameuses cartes sonores. Et vous avez essayé d'élaborer justement un cadre, une grille de lecture qui permet peut-être, en tout cas, c'est ce que vous avez tenté de faire, qui permet de comprendre justement ce paysage sonore. Mais on va y venir tout à l'heure, si vous le voulez bien. Je me retourne à nouveau vers vous, Christine Guilbeault. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, le son, il était abordé scientifiquement, soit, disons, à travers l'émotion artistique qu'il pouvait créer à travers la musique, soit éventuellement par la gêne qu'il occasionnait, c'est la question de la pollution sonore qu'on évoquait hier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il fait l'objet, et on le voit avec vous, d'une nouvelle approche de la part des chercheurs. C'est ce qu'on appelle du côté du monde anglo-saxon les sound studies, c'est-à-dire ces études dans lesquelles le son finalement est au cœur des recherches, un peu comme l'image est au cœur des visual studies. Est-ce que l'anthropologie sonore, elle s'inscrit dans ce champ-là, dans ces sound studies? Et surtout, que vous semble révéler l'émergence de ce nouveau champ d'études quant à la place faite à l'ouïe, à l'audition, dans un monde où, c'est vrai, la vue semble dominer les autres sens?
Alors, en effet, le champ des sound studies, il apparaît assez récemment. Mais c'est un mouvement en fait qui naît surtout dans les universités de langue anglaise. On n'a pas ce découpage des disciplines en studies en France. Mmh. Alors, par définition, oui, du coup, l'anthropologie, le travail qu'on fait en anthropologie du sonore, s'inscrit dans ce type de démarche. Alors, il y a une association européenne des sound studies qui est née, c'est en 2010, qui a fait 3 colloques européens. Et on se rend compte que la plupart des communications qui sont faites dans ce type de rencontres, c'est principalement sur les technologies du son. L'évolution des techniques d'enregistrement, évidemment, on est dans une ère du poste de la révolution numérique. Donc forcément, la question des technologies sonores est extrêmement prégnante. Alors, c'est dans ces travaux-là, peut-être il manque une approche un peu plus localisée des sons, en sachant que le monde est pluriel, que voilà, un enregistreur, un sound system, c'est pas du tout utilisé de la même manière selon les villes où on se trouve, selon les actions qu'on est en train de faire, et c'est un peu notre travail à nous de décrire ces situations-là. Alors qu'est-ce que ça nous dit aussi de notre évolution de l'objet, de la vue vers le son ? Alors je pense que c'est moins le cas en fait depuis plusieurs années, parce qu'il y a quand même le travail qui a été fait par les architectes, les urbanistes, les géographes, toutes ces disciplines qui travaillent sur l'espace de la ville.
Qui commencent à s'approprier le son.
Plus que commencer, parce que c'est des travaux qui datent quand même des années 1980, 1990, qui sont moins connus en fait, peut-être, mais qui ont aussi développé des méthodes d'analyse. En tout cas, maintenant, ils sont beaucoup plus connus et c'est ce constat du déséquilibre entre la vue et l'ouïe est moins importante aujourd'hui.
On retrouvera justement tout à l'heure une géographe, Violaine Jolivet, qui a fait une carte postale sonore de Miami. On la retrouvera tout à l'heure. Mais d'abord, on va aller du côté de l'Égypte et je me tourne vers vous, Vincent Battesti. Vous avez réalisé des cartes postales sonores de cette ville, Le Caire. On va en écouter un extrait. Alors ça, c'est une carte postale donc, qui avait été diffusée sur RFI il n'y a pas très longtemps, au mois d'octobre dernier. Ce qu'on entend, c'est un paysage sonore. Mais alors, je pensais que c'était un marché, mais en réalité, vous me disiez que c'est un mélange. Il y a beaucoup de choses qu'on entend dans ce mix. Mais une chose justement qu'il faudrait peut-être dire, c'est qu'en réalité, précisément, il n'y a pas une ambiance Kaïrote, il y a des ambiances Kaïrote. En réalité, chaque quartier, chaque rue a sa propre identité sonore, sa propre signature acoustique. Alors que vous avez mélangé là, certes, mais chaque identité, chaque quartier a son identité. Vincent Battesti.
Tout à fait. En fait, ce qu'on vient d'entendre, c'était un montage de plein de sons différents du Caire. C'est un montage que j'ai fait avec Monica Fantini de RFI, à partir d'enregistrements que j'avais fait dans plusieurs quartiers, et ce qui s'intéressait aux voix ça s'appelait la voix du Caire, composée de plein de voix différentes. Mais effectivement, il y a c'est un peu triché, puisque là, on mélange un petit peu tout le Caire. Mais en réalité, quand je parle de carte postale sonore, c'est pas tout à fait ça. Une carte postale sonore, pour moi, c'est un endroit, un cadrage, un temps, un espace, comme ça, défini, et que par ailleurs, je m'amuse à faire entendre à des habitants du Caire pour leur demander ce qu'ils en pensent.
Et ils s'y reconnaissent.
Et souvent, en fait, même si a priori les habitants me disent qu'ils ne seraient pas capables forcément de reconnaître, en fait, souvent, ils arrivent à analyser pas forcément le quartier même, ni la rue même. C'est quoi que, j'ai fait des expériences au mois de novembre dernier avec des aveugles, et c'était assez impressionnant parce qu'ils arrivaient parfois même à la rue près à
reconnaître. Ah oui, ils vous disaient dans quelle rue vous aviez capté le son.
Oui. Alors, pour certains aveugles qui avaient une grande expérience avec qui avaient une expérience de la ville, on peut pas avoir cette expertise sans avoir parcouru la ville, sans l'avoir entendu. Mais effectivement, chaque quartier va avoir sa propre identité, parce que les gens, il n'y a pas les mêmes émissions sonores, les gens ne se comportent pas de la même manière. Et ce qui est très intéressant, en fait, à défaut de pouvoir me nommer précisément les habitants non aveugles, à défaut de pouvoir me nommer le quartier précis, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'ils pouvaient me nommer des catégories de quartiers. Et là, c'était intéressant parce que je partais pas de préconceptions que j'apportais moi pour nommer les différents quartiers. C'est eux qui me catégorisaient, me faisaient des découpages en territoire sonore finalement, mais aussi en territoire sociaux évidemment de la ville du Caire.
Ils arrivaient à territorialiser l'ambiance. Et j'utilise ce terme à dessein puisque vous avez publié un texte intitulé « L'ambiance est bonne ». Que vous avez mis entre guillemets, ou l'évanescent rapport au paysage sonore au Caire, invitation à une écoute participante et proposition d'une grille d'analyse. D'abord, qu'est-ce que c'est cette ambiance sonore qu'on appelle, je crois, Algao, au Caire? Comment la définir? Et puis, on va voir ensuite comment est-ce que vous avez tenté de l'analyser aussi.
Oui, tout à l'heure, Christine parlait d'architecte, enfin, de toute une école d'architecture, le Cresson à Grenoble, qui travaille beaucoup sur les questions d'ambiance. De mon côté, j'utilise le mot d'ambiance aussi, mais je cherche pas à définir l'ambiance. Je reprends une catégorie, on va dire, que les anthropologues parlent de catégorie indigène, la catégorie qui est mobilisée par les habitants du Caire, qui est cette notion d'ambiance. En arabe égyptien, c'est le gao, et elle est très utilisée. Moi, je la récupère. C'est très habituel chez les anthropologues, ils récupèrent les conceptions locales. C'est parce que c'est un concept qui est très mis en avant par les habitants du Caire pour justifier leur présence dans tel quartier, leur choix d'aller dans tel jardin, le fait de reconnaître d'aimer aussi leur quartier, parce qu'il y a telle ambiance, l'ambiance est bonne. Et alors souvent, le problème, la difficulté avec tout ce qui est sensoriel, au-delà même du sonore, c'est que c'est tout ce qui est... la qualification du sensoriel est difficile. En fait, il y a souvent peu de mots qui sont mis en avant quand on discute, mais au moins il y a ces termes d'hédonicité, c'est-à-dire on aime ou on n'aime pas, l'ambiance elle est bonne ou elle est pas bonne. Mmh. Et si j'aime bien, si l'ambiance est bonne, je reste, j'apprécie, sinon je pars.
Alors justement sur cette question sensorielle, parce que le premier obstacle quand même quand on a votre démarche, c'est qu'il faut quand même faire fi des autres sens, et en particulier la vue, et de se concentrer sur l'écoute. Donc il y a cette première difficulté qui se trouve dans l'expérience sensorielle elle-même. Mmh. Je continue un instant avec vous, Vincent Battesti, et puis je passerai la parole à Christine Guillebeau. C'est vrai que, je le disais tout à l'heure, la vue, c'est le premier de nos sens, en tout cas pour nous occidentaux. D'ailleurs, Descartes disait en 1637, la vue est de tous les sens le plus universel et le plus noble. Voilà ce qu'il écrivait. Mmh. Il est clair que notre appréhension du monde, elle est hiérarchisée du point de vue sensoriel et que la vue occupe clairement la place la plus imposante. Et vous dites, vous, qu'au Caire, il y a un rapport différent au sens et que de surcroît, les univers sensoriels peuvent varier.
Oui, alors là, si on quitte un petit peu juste cet angle très pointu du sonore, il faut toujours penser aussi que c'est un peu artificiel de travailler que sur le sonore finalement, parce que il faut jamais oublier que c'est une partie de choses plus vastes qui est tout le sensoriel. Sensoriel, je ne sais pas combien j'ai de sens, j'en ai peut-être 5, 6, 2, 3. Chaque société définit le nombre de ses sens, en fait. Par ailleurs, quand on est s'intéresser au sensoriel, pour un anthropologue, c'est très intéressant parce que c'est cette interface entre soi, entre un soi socialisé en société et notre environnement. Donc tout ce qu'on appelle cet univers sensoriel, ce sensorium, il est complètement façonné par la société. Et la partie... j'ai oublié du coup votre question par contre.
La question de comment est-ce qu'on fait pour adapter, je veux dire, son expérience sensorielle et en produire une analyse, une grille de lecture, en l'occurrence sur l'objet qui vous intéresse vous, c'est-à-dire le paysage sonore.
L'idée, en fait, c'est que en travaillant sur le sonore, en choisissant de travailler sur le sonore, c'est faire abstraction du reste un petit peu. Mais parfois, ce reste s'invite quand même dans la discussion, parce que les gens, parfois, en parlant de son, me parlent d'odeur. Ça vient. Il y a toujours une sorte de synesthésie qui est à l'œuvre. J'ai décidé, en travaillant sur le sonore, j'avais commencé dans cet article que vous avez mentionné, je crois, d'essayer d'abord de montrer que c'était justifié pour un anthropologue de s'attaquer à cette dimension sonore qui est un peu intangible, qui est liée au temps, au mouvement. En fait, il y a une ambiance maintenant, mais est-ce qu'elle sera là demain, où un son est produit, je tape dans mes mains et hop, juste après, il n'est plus là. Donc c'était de montrer un petit peu, d'essayer de montrer, de construire un cadre sociologique d'analyse pour montrer que cette analyse par l'anthropologie était possible. Montrer donc qu'il y avait une production sociale et que les événements sonores étaient des productions sociales également.
Alors on va essayer... dans quelques instants, dans quelques minutes, de voir justement la grille de lecture que vous avez proposée. Il y a notamment quatre éléments que sont la compétence, la forme, la production et le discours. J'aimerais qu'on en parle dans quelques instants. Mais d'abord, on va aller du côté de l'Inde avec vous, Christine Guillebeau. Je ne vais pas en dire davantage. On va écouter ce son, on va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Basiquement, ce que j'entends des coups de sifflet, j'entends des hommes qui semblent haranguer une foule. On va positionner justement ce paysage sonore. On est dans une gare routière, Saktamthampuram, qui est dans la ville de Kerala, donc au sud-ouest de l'Inde. Comment est-ce qu'on peut décrypter ce qui est en train de se passer, la Christine Guillebeau?
Alors, en effet, on se trouve au Kerala. En fait, c'est un état régional de l'Inde. Et la ville dans laquelle j'ai enregistré cette gare routière est Thrissur. Donc, il se trouve dans le centre de cette région. Alors c'est un espace, c'est un site qui m'a beaucoup intéressée, d'une part parce que le son y est extrêmement prédominant. Moi j'ai travaillé à la fois avec des enregistrements sonores mais aussi avec la vidéo. Et ce qui m'intéressait de voir, c'est comment on utilise le son comme une manière d'organiser les flux de personnes. On est dans une région de l'Inde et de l'Inde en général où la population est très dense, où les flux quotidiens sont très très importants. Et moi, mon approche du son, elle était justement par cette science qui est faite par les harangueurs. Et l'idée, c'était d'essayer de comprendre pourquoi, là, on voit pas ce qui se passe en termes d'interaction, mais c'est des espaces où il y a très peu d'arrêts. Les gens circulent, prennent leur transport, partent, il n'y a pas de file d'attente, il n'y a pas de panneau pour se repérer. Tout se fait de manière acoustique.
Et justement, vous dites qu'il n'y a pas de panneau pour se repérer. En réalité, nous, ce qu'on entend, c'est des cris, une ambiance totalement déroutante, alors qu'au contraire, pour les Indiens précisément, non seulement elle est parfaitement intelligible, mais en plus, elle est indispensable. C'est-à-dire que pour se guider d'une certaine manière dans la gare, on s'appuie précisément sur ce paysage sonore, et parce qu'il est chargé de repères, en réalité. Alors nous, on ne le comprend pas, mais il est chargé de repères.
Oui, et en effet, c'est un espace le plus quotidien, c'est-à-dire, a priori, les gens connaissent la route qu'ils doivent prendre, donc c'est vraiment des espaces très habituels, les gens vont travailler, c'est les étudiants, les gens, c'est le matin, voilà, c'est vraiment un espace de flux habituel. Et le son va juste servir à diriger sur la vision latérale, quel bus dans lequel on rentre, et remplir le plus vite possible, et dès que le bus est plein, on part. Donc il y a une logique, si vous voulez, une compétition
économique. Donc ces hommes qu'on entend crier, en fait, ce sont des rabatteurs qui invitent les clients à monter dans leur bus.
Exactement, donc ils sont en compétition à deux ou trois, et donc la voix qui est haranguée, elle a un certain timbre. Dans cet enregistrement qui est extrait d'une vidéo, on l'entend pas très bien, mais il y a tout un travail acoustique intéressant à faire sur cette science vocale. En termes de timbre, le nom des villes est transformé. Je vous parlais tout à l'heure de la ville de Thrissur dans laquelle on se trouve. Au lieu de dire Thrissur, les gens vont haranguer Thrissur, Thrissur, Thrissur. Voilà. Donc on donne une trace sonore, on brouille l'aspect sémantique pour créer un effet sonore. Donc c'est des faiseurs d'ambiance, on pourrait dire, ou des faiseurs de son ambiant qui utilisent le son de manière économique. Et ça m'intéressait beaucoup. En tout cas, dans mes recherches en anthropologie sonore, on parlait tout à l'heure avec Vincent des questions d'appréciation, du caractère affectif, émotionnel du son. Mais il y a aussi tout ce domaine de l'économie et de la manière de manager les foules. Et j'ai trouvé ça intéressant de comparer à nos signalétiques dans nos espaces publics, de train, de gare, de tram, où c'est pas forcément ce type de choix qui est fait. Si on prend, je m'étais amusée à comparer la voix de la SNCF en France, qui est une voix unique, monopolistique, et qui annonce de manière monopolistique, c'est le terme que j'ai utilisé, et qui dirige les différents voyageurs. Là, on est dans un système où on est dans la traction multiple. Chaque passager va se trouver comme ça dans une bulle où il va être attiré comme ça par plusieurs voies différentes, ce qui permet d'assurer des flux, alors que dans nos pays, on va chercher plutôt à organiser à l'avance le déplacement des gens. Mmh. Donc c'est pas du tout les mêmes types de choix.
En uniformisant d'une certaine manière le paysage sonore. C'est vrai que pour nous, une gare, n'importe quelle gare SNCF, ça ressemble à ça.
Les TGV numéro 8625 et 8025 en provenance de Paris-Montparnasse et à destination de Brest et Rennes. Départ initialement prévu à 15h.
Voilà, on connaît tous évidemment cette voie, on l'a tous entendu et on voit bien
le départ est initialement prévu, on est toujours dans une temporalité du futur. Hein, on annonce à l'avance pour éviter les files d'attente.
Ouais. Les choses sont préorganisées.
Voilà. Ouais. Donc c'est une manière de gérer le temps. Vous voyez, l'anthropologie, c'est aussi, on parlait de l'aspect social, là on est vraiment dans des usages extrêmement d'efficacité sociale quotidienne.
Vincent Battesti, je me retourne vers vous et on va essayer de comprendre un peu ce que vous avez cherché à mettre en place. Vous avez imaginé, disons, une structure permettant peut-être de lire justement ces paysages sonores, et en l'occurrence vous êtes appuyé sur ce terrain qu'est le Caire, et vous dites qu'il y a quatre éléments qui vous semblent fondamentaux, que vous avez appelés la compétence, la forme, la production et le discours. Alors pourquoi ce choix? Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière peut-être chacune de ces mailles principales? C'est comme ça que vous les avez appelées. Et puis une fois que cette grille de lecture elle est adoptée, est-ce qu'on peut dire qu'on a dans ces ambiances réellement des productions sociales?
Alors c'était toute l'ambition.
C'est tout l'enjeu de votre travail, donc ça va être long, compliqué à expliquer, mais on va essayer.
Moi, en fait, ça peut être assez résumé assez rapidement, en fait. L'idée, donc, c'était vraiment de montrer que qu'il était possible pour des anthropologues de s'attaquer à cette masse sonore qui est là, qu'on rentre dans le Caire. Quand un étranger arrive au Caire, il est frappé par cette densité sonore, il y a cette gang de
sonore. Chaos, c'est souvent ce que disent les Occidentaux.
On parle de cacophonie, voilà, c'est ce que disent, il y avait une dépêche AFP qui avait parlé comme ça de cacophonie du Caire, et qui fait pas forcément cacophonie, en fait, il y a toute une sémiologie possible à faire, parce qu'il y a plein de signes, mais des signes qui sont lisibles à ceux qui savent lire, ou entendre, cette sémiologie. Alors j'avais essayé de montrer un peu qu'on pouvait analyser cette chose qui semblait informe par l'anthropologie, et j'avais utilisé en fait les travaux d'un auteur qu'on a mentionné tout à l'heure, que Christine a mentionné, c'était de Stefan Feld, et lui il l'avait appliqué il venait de la musique, l'ethnomusicologie. Moi je l'ai reprise, travaillé, changé, et à la fin ça donnait effectivement une grille à quatre mailles qui est la compétence, la forme, la production et le discours. C'était de montrer qu'il y avait des compétences à entendre, et il y avait des compétences aussi à produire du son, et qu'il y avait des formes de production sonore qui existaient, et qu'on pouvait les analyser, les décrire, et que cette production, donc cette troisième maille de la production, cette production s'inscrivait notamment dans le temps et dans l'espace, avec des certaines régularités qui participaient justement à ces formes d'identité de territoire, de la ville. Et à la fin, en fait, j'avais ces questions du discours. Quel discours on tient, quel discours les habitants tiennent sur cette production sociale. Et en fait, c'est quatrième marche, pardon, que j'avais le plus de difficultés finalement, parce qu'il y avait un discours, un discours dans les médias. On pouvait parler éventuellement de pollution sonore, par exemple, où il y avait eu des débats aussi sur cette question d'unification des appels à la prière. C'est juste avant que Moubarak quitte le pouvoir. Enfin, oui. Mais en fait, en tant qu'anthropologue, on parle avec des habitants, des gens du quotidien. Mais le discours, il a été pas très élaboré. Dans le sens où, ce que je disais tout à l'heure, souvent ça revient à dire j'aime ou j'aime pas, donc c'est parler en termes d'hédonicité. Pour décrire les sons, on utilise aussi en termes d'intensité, c'est fort ou c'est pas fort, en termes de je connais ou je connais pas aussi. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on pouvait en dire davantage? Et c'est là-dessus que on a dû, parce qu'après j'ai invité un collègue à travailler avec moi, Nicolas Puig, développer des méthodologies d'enquête en fait.
Et sur les discours justement tenus sur la perception justement de ces ambiances. Est-ce que vous avez noté, selon les catégories sociales, des discours différents sur ces ambiances sonores? Est-ce que, par exemple, ils apparaissent plus difficilement supportables, par exemple, pour les couches les plus aisées, et qu'on peut peut-être penser plus occidentalisées, d'une certaine manière?
Alors, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a des distinctions sociales. Et alors ça repose très nettement sur une structuration très forte de la société égyptienne en termes de classe. Bon, toute société est structurée, mais celle égyptienne et du Caire l'est énormément. Et les classes aisées ne. Alors, si on reprend les catégories locales, qui sont bourgeoisie, donc la bourgeoisie, et puis la charbia, donc c'est les classes populaires, se fréquentent pas et ont des discours l'un sur l'autre qui tentent vraiment à se distinguer, à les distinguer. Et ils ont un discours sur le sonore, effectivement. Les classes supérieures, en général, considèrent que les classes populaires sont bruyantes et infréquentables.
Christine Guibaud, c'est la même chose du côté de l'Inde. La perception des ambiances sonores, des paysages sonores, varie selon les classes sociales?
Oui, alors ça c'est quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de sociétés du monde, et ça a été déjà extrêmement bien décrit par l'historien Alain Corbin par l'anthropologie sociale au cours de l'histoire, comment les imaginaires sociaux se construisent autour aussi de la perception des sons, de la manière de porter la voix, de qualifier les espaces par des silences de nature différente. Donc ça, c'est des choses qui ont été assez bien décrites. Et en ce qui concerne l'ethnographie, enfin qui a été faite en Inde, il y a un très beau travail de Tripta Chandola avec laquelle on a aussi travaillé dans le groupe de recherche Milson, qui a fait un travail tout à fait pionnier sur la perception des sons dans le bidonville de Govindpuri à New Delhi, qui a fait l'objet aussi d'une production radiophonique de la BBC avec l'anthropologue Tom Rice. Qui est tout à fait intéressante parce qu'elle montre du point de vue des habitants du bidonville, c'est-à-dire ces personnes qui vivent dans des espaces où, évidemment, la notion de frontière est tout à fait poreuse, où on entend tout ce qui se dit, où il y a des stratégies aussi pour signaler sa présence, mais aussi signaler des discriminations. Enfin, elle fait tout un travail de sociologie, des interactions quotidiennes dans le bidonville. Et du point de vue de leur perception sensorielle, on retrouve ce même clivage avec la classe moyenne, celle qui a les voitures, qui compte, qui peut acheter les voitures et qui klaxonne à bout de bras dans la rue, et ces gens qui n'ont rien. Et donc, elle montre dans une perspective inversée, ce qui est assez rare en fait, parce qu'on voit toujours les sons du côté plutôt des dominants. Donc ces imaginaires-là, ils sont assez presque universel, malheureusement.
Alors, il y a la lecture sociale et puis il y a aussi la lecture religieuse. Vous êtes intéressé, vous, aux lieux de culte et donc aux religions. L'Inde du Sud, en particulier, qui est votre terrain de prédilection, on trouve des hindouistes, on trouve des chrétiens, on trouve des musulmans. Est-ce qu'ils s'inscrivent de manière différente dans l'espace public? Est-ce que, finalement, leur empreinte sonore a quelque chose de spécifique? Ou est-ce que c'est une question totalement saugrenue?
Pas du tout. ça prend beaucoup de temps dans mon quotidien, donc
cette
question tout à fait pertinente. C'est vrai que les espaces religieux sont tout à fait intéressants. Ça fait partie des sites, je pense, qui sont de nos spécialités, dans la mesure où, comme on l'a dit tout à l'heure, nous on s'intéresse aussi aux théories locales du son. Évidemment, on va analyser le son à l'enregistre avec des grilles de lecture, certains concepts acoustiques, analytiques. Mais ce qui nous intéresse ici aussi, c'est comment les gens construisent leur théorie de l'effet du son. Et donc, le domaine religieux est tout à fait prolifique parce que c'est un domaine de réflexion qui est très ancien. En Inde, les théories du son, elles datent de l'Inde védique, de moins 1500 avant Jésus-Christ, jusqu'à nos jours. Donc on a tout ce travail à faire des catégories sonores. Il y a plusieurs thèmes sanscrits pour décrire le son, qu'il soit vocal, instrumental, musical. Jusqu'à aujourd'hui, ceux qui fabriquent, par exemple, pour les chrétiens, qui font l'automatisation des cloches d'église, qui ont aussi leur propre théorie de comment produire un son qui soit entendable par tous. Donc c'est en croisant ces différentes théories qu'on arrive à comprendre la culture auditive d'un lieu.
On parle ce matin de culture auditive, toute cette semaine de corps sonore aujourd'hui, écologie acoustique, écouter la ville et la vie. On est avec Christine Guibaud et Vincent Battesti.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et on va prendre la direction des États-Unis, ou plutôt de Montréal, du Canada, pour retrouver Violaine Jolivet, mais des États-Unis quand même, puisqu'on va parler de Miami. Violaine Jolivet, vous êtes géographe, professeur à l'Université de Montréal. Dans le cadre d'un travail de doctorat, vous avez réalisé une géographie sonore de la ville de Miami. Vous avez conçu une carte sur laquelle on retrouve une trentaine d'échantillons sonores que vous avez recueillis entre 2010 et 2012, auxquels vous associez d'ailleurs des photos pour qu'on puisse aussi visualiser ces espaces. Alors, c'est vrai que généralement, les géographes, ils privilégient plutôt des approches physique, visuel de l'espace. Il est assez rare de les voir adopter une analyse sonore de leur objet d'étude, même si effectivement ils s'y intéressent depuis quelques années maintenant. Mais les géographes sont pas si nombreux à avoir été influencés par Murray Schafer, par exemple, dont on parlait tout à l'heure. Alors pourquoi cette démarche et qu'est-ce qu'elle vous semble finalement apporter de nouveau, Violaine Jolivet?
C'est pas tant influencé par Schafer que de reconnaître la dimension sonore de nos sociétés. Qui a fondé un peu ses approches en géographie et montré que il y a un lien entre l'espace, donc la marotte des géographes, et les sons.
Alors justement, on va parcourir cette carte postale sonore de Miami. Miami, donc située sur la côte est des États-Unis, au sud-est de la Floride, une ville qui est située à même pas 400 km de Cuba, qui est évidemment très marquée par cette influence. Il faut rappeler qu'en 1959, quand Fidel Castro arrive au pouvoir, on a 500 000 de Cubains qui débarquent au sud de la Floride, et la moitié de ceux-là s'installent à Miami. Premier extrait. Voilà, alors là, Violaine Jolivet, on est dans le centre-ville de Miami et cette influence de Cuba, de la culture hispanique, elle apparaît, on l'entend déjà assez clairement, Violaine Jolivet.
Oui, tout à fait. En fait, c'est quelque chose qui m'a assez fascinée la première fois que j'ai voyagé à Miami, c'est que il m'a fallu un mois pour parler anglais, en fait. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir un espagnol qui a été une langue familiale et j'ai été très étonnée par cette ville hyper latine, en fait, dans ses populations, pas dans sa structure urbaine. On est bien dans une ville états-unienne de la Sun Belt quand on arrive à Miami. Mais comme 65% de la population est hispanique, c'est vrai que très rapidement, on se sent dans une ville bilingue, voire majoritairement hispanophone.
Alors, on va s'enfoncer encore un petit peu dans la cubanité de Miami. Alors les auditeurs se demandent probablement quel est le bruit qu'on entend. Pour vous, il est familier puisque c'est celui du domino, de la pièce de domino sur une table. On est là dans le parc des dominos qui est dédié au jeu de domino, très pratiqué par les Cubains. On est à l'angle de la 8e rue et de la 15e avenue. Voilà un élément de la cubanité qui fait désormais partie de l'identité de la ville. C'est d'ailleurs un lieu touristique mythique aujourd'hui, Violaine Jolivet.
Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à force de pratiquer et d'avoir des Cubains des premières vagues qui venaient jouer au domino que finalement la ville a accepté de créer ce parc qui s'appelle le parc Máximo Gómez, qui est un des pères de l'indépendance cubaine, mais qu'on appelle plus facilement le parc au domino parce que finalement c'est son but, c'est les gens viennent le pratiquer pour jouer au domino. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une adaptation entre guillemets. De la part des services publics et de la ville à une demande, à une pratique typiquement, je dirais caribéenne plus que cubaine. Et le bruit des dominos, en fait, si là il est concentré parce qu'on a plusieurs tables de jeu, en fait, c'est un bruit qu'on peut entendre assez fréquemment, même d'un jardin à l'autre, d'un appartement à l'autre, parce que c'est vraiment un jeu très populaire. Et c'est vraiment ça qui est pour moi un marqueur d'une identité, d'une projection dans la ville.
Alors, Miami n'est pas seulement cubaine, hispanique, elle a aussi d'autres identités. On va retrouver un nouvel extrait. Là, c'est un tout petit peu plus subtil. On va d'abord l'entendre et puis ensuite, vous allez le décrypter.
Thank you.
Alors, là, Violaine Jolivet, on va essayer de planter un peu le décor, mais disons qu'on est déjà sous des ponts.
Ouais, on est sous l'autoroute. En fait, on est sous un gros carrefour autoroutier de la ville de Miami. Et c'est des espaces vraiment de fracture, de séparation entre les quartiers. Et d'autant plus que là, on est au cœur d'Overtown, qui est le premier ghetto afro-américain qui a été fondé avec les débuts de la ville. Et ce quartier était considéré comme un quartier relativement prospère jusqu'à en fait l'arrivée de ce tracé d'autoroute qui a vraiment éclaté, fragmenté le quartier et qui a en fait accentué son enclavement. Cette autoroute, pour moi, elle symbolise cette relégation des populations afro-américaines qui ont été en fait évincées entre guillemets, d'une certaine économie par l'arrivée des Cubano-Américains qui, eux, ont eu un entrepreneuriat beaucoup plus, on va dire, conquérant et qui ont finalement, qui affichent un visage de réussite comparativement à ces populations afro-américaines.
Alors, de l'autre côté du spectre, justement, on va retrouver les riches et les nouveaux espaces urbains qui se sont développés. Alors là, l'ambiance, le paysage sonore est totalement différent. C'est une ambiance très différente, un peu musicale, beaucoup plus sereine, beaucoup plus douce, diront les uns, peut-être aseptisée, diront d'autres, Violaine Jolivet.
Ah mais complètement aseptisée, c'est du soft rock, c'est pas du tout le type de musique qu'on est habitué à entendre dans les rues de Miami, on entend plutôt les grosses basses de reggaeton ou les trompettes de la salsa ou du hip-hop comme descendant du Miami Bass. Donc on est vraiment là dans l'esthétisation du paysage sonore. Hein. On a vraiment une fonction commerciale avec cette espèce de petite musique d'ambiance qui va faire qu'on va se sentir en confiance, qu'on va être amené à profiter du lieu. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le lieu où a été pris cet enregistrement, c'est une grosse opération de développement urbain qui a été faite au début des années 2000 et qui a complètement reconfiguré un quartier qui était une partie de Wynwood, donc un quartier portoricain, hispanique, immigrant à la base. On l'a renommé, comme ça se fait beaucoup dans les procédés, dans les projets d'aménagement urbain, on l'a renommé Midtown pour avoir une espèce de référence avec d'autres développements urbains dans d'autres villes états-uniennes ou mondiales. Et là, on est vraiment sur quelque chose où la production urbaine, la fabrique de la ville va transformer complètement les sons.
Voilà, ce dernier point sonore qu'on entend, on est dans un quartier dans lequel se sont installés de nombreux Haïtiens qui sont arrivés par vagues, d'abord dans les années 60 avec le régime dictatorial des Duvaliers père et fils, mais sans forcément se concentrer dans cette partie nord de la ville. Mais au fur et à mesure, c'est vrai que les nouvelles vagues arrivées des années 70-80, eh bien, se sont concentrées dans ce quartier au point que lui aussi, il a été baptisé Little Haiti. C'était avant Lemon City. Merci beaucoup en tout cas à vous, Violaine Jolivet, d'avoir été avec nous depuis Montréal. On va prendre la direction des États-Unis. Parce que pour clore cette semaine qu'on a consacrée au corps sonore, on a voulu donner à entendre une voix très connue des amoureux du son et de la musique électro. Bernie Krauss, maître acousticien et musicien de renom. Il a travaillé sur des films comme Apocalypse Now, comme Rosemary Baby, mais aussi avec Brian Eno ou encore avec les Doors. Mais ça, c'était avant de se passionner pour la bioacoustique et de retourner à l'université pour y passer un doctorat. C'est les sons de la nature sauvage qu'il traque aux quatre coins du globe depuis maintenant près de 50 ans. On parlait depuis le début de cette émission des sons produits par l'homme, ce qu'il nomme l'anthropophonie. Mais là, c'est de biophonie dont il s'agit. Alors, ce que Bernie Krauss a cessé de s'intéresser à l'anthropophonie, eh bien, on l'écoute. Il est au micro de Clément Salazar.
Ce n'est pas que je ne m'intéresse pas à l'anthropophonie, mais elle m'intéresse parce qu'elle modifie le paysage sonore naturel, sauvage. Parce que ce bruit mécanique ou humain agit sur les sons émis par les animaux. Moi, je suis un écologiste du paysage sonore. Et ce paysage sonore, je le vois comme un récit des lieux. C'est le langage qui nous permet de savoir où nous sommes, si le lieu est un habitat urbain, rural ou naturel. L'anthropophonie est l'ingrédient essentiel de sous-catégories dont la première est le son maîtrisé, c'est-à-dire la musique, le langage ou le théâtre. La deuxième, ce sont les sons chaotiques ou incohérents, c'est-à-dire le bruit. Mais la raison pour laquelle je m'intéresse à l'anthropophonie, c'est uniquement parce qu'elle modifie le son produit par des organismes sauvages et qu'elle interfère avec la biophonie et la géophonie.
On l'a compris et on le sait d'ailleurs, Bernie Krause, vous vous intéressez à la biophonie. Mais alors ces sons de la biodiversité, de la nature sauvage, sont-ils structurés ?
L'idée derrière la biophonie, c'est que si l'on représente graphiquement le son d'un habitat sain à l'aide d'un spectrogramme, ce son semble structuré. Chaque organisme sonore trouve sa propre bande passante selon le spectre de fréquence ou le spectre temporel, c'est-à-dire selon la fréquence ou le temps. Et chacun finit par trouver sa place. Il est absolument essentiel de comprendre comment les animaux émettent des sons dans un habitat sain, parce que c'est exactement comme les instruments d'un orchestre. Chaque son doit trouver sa place afin de pouvoir se faire entendre et transmettre des informations indispensables à sa survie et que d'autres organismes similaires puissent recevoir ces informations essentielles. C'est un phénomène auquel personne n'a jamais vraiment prêté attention parce que la science, et particulièrement la bioacoustique, a décomposé le monde en éléments individuels. Nous l'avons fragmenté et déstructuré en enregistrant, par exemple, un seul oiseau à la fois, ou un seul insecte, ou un seul mammifère. C'est un peu comme si l'on essayait d'appréhender la magnificence de la cinquième symphonie de Beethoven en extrayant de l'orchestre le son d'un seul violoniste et en écoutant uniquement cette partie. Moi, je me penche sur le contexte sonore global d'un environnement donné. Et ça change tout, parce que nous pouvons alors comprendre les changements qui interviennent dans la santé de cet habitat.
La perception humaine déforme-t-elle d'une manière ou d'une autre ce grand orchestre des animaux, Bernie Krause ? Pouvons-nous vraiment l'entendre, le comprendre, nous autres humains ?
Bien sûr, nous sommes des animaux, et notre cerveau reptilien est un cerveau d'animal sauvage. Nous devons simplement comprendre comment ces sons nous impactent lorsque nous plongeons dans le monde de la nature. Moi, par exemple, je souffre d'une maladie lourde appelée TDAH, ou trouble de déficit de l'attention et hyperactivité. Et ça m'empêche de me concentrer. Et à une époque, cela m'a rendu très dyslexique. Je n'arrivais pas à lire ni à écrire. Et bien, la seule chose qui m'ait jamais aidé, c'est de sortir et de m'asseoir dans une forêt et de simplement écouter les sons de la nature. Ça me détend. Cela me permet de me concentrer et ça m'aide à redonner sens à ma vie. Rien d'autre n'a marché. J'ai essayé les médicaments, j'ai tout essayé. Et rien ne marche, sauf d'être dehors, dans un cadre naturel. Et peu importe où d'ailleurs, que je me trouve dans un contexte marin, à enregistrer des baleines, ou dans une forêt tropicale en Amérique centrale, en Afrique ou en Amérique latine, peu importe. Ce qui m'importe, c'est que je sois dehors, à l'écoute, et que je sente l'humidité sur ma peau, que je respire les odeurs merveilleuse de la forêt. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai changé de carrière. Et puis j'ai découvert qu'il y avait bien plus de choses à apprendre qu'on ne le pense sur ce paysage sonore naturel mondial. Alors j'ai commencé à lire Murray Schafer et de grands naturalistes et philosophes. Et j'ai vu que eux aussi, ils avaient eu la même expérience.
Et dans quelle mesure les milliers d'enregistrements sonores que vous avez recueillis, Bernie Krause, plus de 5000 heures et plus de 15 000 espèces animales différentes, documentent l'impact de l'être humain sur la planète ?
Si l'on se fie à mes archives, 50% ou plus des sons que j'ai enregistrés proviennent d'habitats qui sont soit désormais totalement silencieux, soit inaudibles sous leur forme d'origine.
they can no longer be heard in any of their original form.
L'être humain aime le bruit et ça lui donne un sentiment d'importance et d'existence. Il n'y a aucun sens profond à cela, mais c'est apparemment ce que nous aimons faire. Nombre de ces lieux ont désormais disparu, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ces archives, cette collection est précieuse. Par exemple, il y a un endroit à une vingtaine de minutes de là où je vis, qui s'appelle le Sugarloaf State Park. J'y fais des enregistrements depuis 1993. Et le premier effet du changement climatique que j'ai remarqué, c'est que le printemps arrive désormais 2 semaines plus tôt qu'en 1993. En d'autres termes, alors que le pic du printemps devait se produire fin avril, il a désormais lieu mi-avril. Et ça a eu un effet sur les oiseaux migrateurs en provenance d'Amérique du Sud et à destination de l'Alaska.
And they migrate right through this region where we live. And so when the birds come through,
leur route migratoire traverse précisément cette région, et lorsque les oiseaux passent, toujours à la même époque, la végétation qui est leur source d'alimentation est différente. Ils ne peuvent donc plus s'alimenter parce que le pic du printemps est déjà derrière eux lorsqu'ils arrivent.
So they have to go someplace else.
Puis il y a autre chose. Jusqu'à cette année, la Californie a connu une sécheresse épouvantable, une très longue période sèche qui a duré 5 ans. Et même avec toute la pluie que nous avons eue là, nous ne sommes pas encore hors de danger. Et c'est ce qui s'est passé lors de la 4e année de sécheresse. Pour la première fois de ma vie, j'ai presque 80 ans, j'ai connu un printemps silencieux. Une période où il y avait énormément d'oiseaux, mais aucun ne chantait, et c'était très, très étrange. Et qui m'attriste un peu, et pas seulement pour moi, mais également pour les autres. C'est la rapidité à laquelle tout disparaît, et l'absence de volonté commune, de changement et de protection des sons et des habitats qui restent.
Voilà, ces animaux qui peu à peu se taisent, cette biophonie qui peu à peu va vers un silence complet. C'était Bernie Krause au micro de Clément Salazar. Bernie Krause qui est donc musicien, bioacousticien et puis auteur d'un ouvrage qu'on peut lire en français qui était paru chez Flammarion, Le Grand Orchestre Animal. Évidemment, Christine Guilbeault et Vincent Battesti qui étaient avec nous ce matin connaissent bien sûr Bernie Krause, hein, Vincent Battesti.
Oui, bien sûr. Moi j'aime beaucoup Bernie Krause. Ce qu'on peut en dire peut-être. Par contre, notre travail, effectivement, il est très différent du travail de Christine et le mien, puisqu'on, autant Bernie Krause se rejette, en fait, cette anthropophonie, pour lui, c'est la pollution qui vient.
Alors que vous, c'est ce qui vous intéresse.
Et nous, c'est ce qui nous intéresse, exactement. Et on n'a pas cette dimension morale, se dire c'est bien ou c'est pas bien. On est vraiment dans, nous, ce qui nous intéresse, c'est justement, dans l'urbain, la moitié de la population mondiale est urbaine aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, cette écologie urbaine.
Christine Guilbeault.
Oui, on peut rajouter aussi qu'il y a, comme parti pris dans le travail de Bernie Krause, c'est aussi de projeter aussi certaines visions humaines sur les animaux. Parler d'orchestre animal, il y a derrière toute la vision de la musique, c'est des animaux qui se coordonnent dans leur environnement sonore. Mais
on anthropomorphise
d'une certaine manière. Il faudrait voir en fait qui entend qui dans cet espace sonore et de faire ce travail de l'interaction sonore entre les animaux qui peut-être mérite d'être approfondi aussi.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux de nous avoir éclairés sur cette anthropologie sonore qui est en train d'émerger et à laquelle on s'intéressera probablement de plus en plus ces prochaines années. Merci beaucoup Christine Guilbeault et Vincent Battesti. Tout de suite on retrouve sur France Culture Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors on continue notre série consacrée au Brexit et on va s'intéresser en particulier aujourd'hui à Theresa May. Qu'est-ce qu'on sait au juste de Theresa May ? Quelle est la personne que vont devoir affronter les négociateurs de l'Union européenne sur les conditions du Brexit, Brice ?
Eh bien c'est une femme discrète et indéchiffrable. Elle intrigue prodigieusement ses compatriotes. J'ai été estomaqué de découvrir la semaine dernière dans le New Statesman une interview portrait particulièrement flatteuse de la Première Ministre. C'est étonnant parce que c'est un grand hebdomadaire intellectuel de la gauche britannique fondé en 1913 par des membres de la Socialist Fabian Society. L'article est signé de son rédacteur en chef, le talentueux Jason Coley, et il est extrêmement long et extrêmement fouillé. Qu'y trouve-t-on donc d'utile à nos réflexions de cette semaine sur le Brexit et ses perspectives ? Eh bien d'abord, son expression favorite, qui est tout un programme en effet. Quiet Resolve, résolution tranquille. Elle résume, pour Jason Coley, l'approche de la politique qui est celle de Theresa May. Une personnalité qui ne fait pas de bruit, mais qui ne dévie pas de la route qu'elle s'est fixée. The Economist, qu'il avait baptisé Mrs. Maybe pour stigmatiser ce qu'il percevait d'indécision chez elle, se serait trompé. Elle peut être lente à se faire son idée, mais elle n'en change pas aisément. Les autres mots et expressions qui reviennent dans ses propos sont « devoir civique »,« responsabilité »,« jouer selon les règles » et « sens commun ». Son prédécesseur, David Cameron, estime le rédacteur en chef du New Statesman, était parvenu au pouvoir en gommant ce qui, dans le discours conservateur, apparaissait comme le plus clivant. Mais profondément, sa politique à Cameron était néolibérale. Il a réduit drastiquement le nombre de fonctionnaires de plus de 100 000 postes supprimés par an. Il était favorable à la mondialisation, à l'appartenance de son pays à l'Union européenne et se disait interventionniste libéral en politique étrangère, mais au contraire, croit en un État moral et interventionniste. Le résultat du référendum sur le Brexit a achevé de la convaincre de la nécessité d'un tournant sociétal et économique pour la Grande-Bretagne. Bien qu'elle ne fût pas favorable au Brexit, elle a aussi déclaré que le ciel ne nous tomberait pas sur la tête si le Leave l'emportait. À cette époque, la plupart de ses collègues dramatisaient au contraire à loisir les risques afin de faire basculer l'électorat. Elle dit comprendre et partager les frustrations de l'énorme masse des laissés pour compte de la mondialisation et apparaît décidée à mieux protéger ces populations fragiles. C'est pourquoi la question de la souveraineté britannique lui apparaît aussi décisive.
Alors c'est donc une souverainiste, Brice, mais aussi une conservatrice. Pourtant, elle se dit favorable à une politique industrielle, ce qui la rapproche quand même de la gauche.
Oui, oui, économiquement, elle penche vers la gauche. Elle revendique non seulement une politique industrielle, mais même une stratégie industrielle. Et dans cet esprit, elle entend utiliser le gouvernement comme une force au service du bien commun. Elle conçoit le rôle de l'État comme efficace et compensatoire, mais sur le plan sociétal, elle penche vers la droite. Une droite communautarienne, selon le think tank conservateur Bright Blue. Son mot d'ordre ? Identité, appartenance, sécurité. Elle est déterminée à faire baisser de manière décisive le niveau de l'immigration, rencontrant en cela une attente très majoritaire de son électorat. D'un rythme actuel d'entrée annuelle au Royaume-Uni de 350 000 personnes, elle a promis de le ramener à quelques dizaines de milliers. Mais son prédécesseur Cameron avait le même genre de promesse. Elle dit « les gens ont besoin d'éprouver le sentiment qu'ils appartiennent à une communauté » et elle se méfie de ceux qui vivent à travers le monde et ne se sentent responsables de rien nulle part. Elle a choqué en déclarant « si vous êtes citoyen du monde, alors vous êtes citoyen de nulle part ». N'oublions pas qu'elle est fille de pasteur. Mon père, dit-elle, faisait toujours passer ses paroissiens avant sa famille. C'est qu'elle confie souvent. Pour autant, elle n'a jamais émis de critique contre le mariage gay. Elle a eu l'habileté de ne jamais s'affilier à l'un des clans ou des réseaux qui parcourent le Parti conservateur. Elle est étrangère à ce qu'on appelait au temps de Cameron la « chumocracy », tiré du mot « chum », qui désignait dans l'argot estudiantin les bons copains avec lesquels on avait partagé une chambre à Oxford, les « chamber fellows », et qui a donné la fameuse expression « old chump ». Elle a veillé à demeurer isolée au sein du parti Tory. Il y avait des Cameronites, généralement, d'ailleurs c'était des old chums, mais il n'y a pas de mayistes, et d'ailleurs elle n'y tient pas. À 60 ans, elle se lance dans une politique en faveur de la justice et de la mobilité sociale qu'elle résume ainsi « une société qui fonctionne au bénéfice de tous et non pas de quelques-uns. Elle dit vouloir attirer les électeurs de gauche désarçonnés par le tournant pris récemment par le Parti travailliste sous la direction de Jeremy Corbyn. C'est pourquoi d'ailleurs la menace de transformer la Grande-Bretagne en un paradis d'évasion fiscale brandie au nez des partenaires européens, si l'accord avec eux devait se révéler trop punitif pour son pays, ne doit pas être pris trop au sérieux. Elle a bien trop besoin de rentrées fiscales pour financer ses propres projets sociaux.
Merci beaucoup Brice Couturier. Theresa May, fille de Pasteur, ça lui fait un point commun avec la chancelière allemande, exactement, Angela Merkel. Merci beaucoup Brice. On peut retrouver bien sûr toutes vos chroniques sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr.